Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le Petit Nicolas est un recueil de récits brefs de René Goscinny, accompagné des illustrations de Jean-Jacques Sempé. Publié pour la première fois en volume en 1960, il rassemble des aventures de Nicolas, écolier de la France des années 1950, racontées depuis son propre point de vue. Le livre relève du récit pour la jeunesse et de la comédie de mœurs, mais sa précision comique lui donne aussi une portée durable auprès des lecteurs adultes. Chaque épisode part en général de situations ordinaires, la classe, les jeux, les relations entre camarades, la famille ou les petites ambitions enfantines. La voix de Nicolas transforme ses faits modestes en affaires considérables, sans jamais mesurer entièrement les conséquences de ses raisonnements. Goscinny construit ainsi un humour fondé sur le décalage entre la logique immédiate des enfants et les règles des adultes. Les dessins de Sempé ne se limitent pas à illustrer le texte, ils prolongent sa vivacité, rendent visibles les mouvements de groupe et installe une observation tendre, mais lucide de la vie quotidienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une narration enfantine qui produit le comique par décalage, le trait le plus distinctif du livre réside dans la narration à la première personne. Nicolas rapporte les événements avec un vocabulaire simple, une confiance entière dans ses interprétations et une attention portée aux détails qui comptent pour lui. Cette voix ne constitue pas seulement un procédé de lisibilité pour le jeune public. Elle organise le comique. Car le lecteur perçoit souvent ce que Nicolas ne comprend pas complètement, une tension entre adultes, une règle sociale, une maladresse ou une conséquence prévisible. Le narrateur ne ment pas et ne cherche pas à ironiser. Son récit est drôle parce que sa sincérité demeure intacte, même lorsqu'il justifie une initiative peu raisonnable ou décrit une agitation collective comme parfaitement naturelle. Cette distance évite toute leçon pesante. Les comportements des enfants ne sont ni idéalisés ni condamnés, ils sont examinés depuis une logique immédiate, compétitive et affective. La forme brève renforce cet effet. Un incident limité peut prendre une importance immense, puis retomber sans morale explicite. Goscinny restitue ainsi une perception du monde où les maux des adultes, les récompenses, les punitions et les rivalités acquièrent une gravité provisoire. Le lecteur apprend à reconnaître les limites de ce regard tout en restant proche de son énergie et de sa cohérence interne. Deuxièmement, la classe comme miniature vivante de la société adulte, elle et l'école est un cadre central des récits, non parce que le livre cherche à décrire un programme pédagogique, mais parce que la classe rassemble des règles, des hiérarchies et des tempéraments incompatibles. Nicolas et ses camarades doivent partager un espace réglé par les consignes du maître, les attentes des parents et les impératifs de discipline. Pourtant, leurs alliances, leurs jalousies et leurs jeux déplacent constamment cet ordre. Goscinny montre que le collectif enfantin ne fonctionne pas comme un groupe harmonieux. Chaque garçon possède une place reconnaissable, liée à ses habitudes, à son caractère ou au regard des autres, et ces différences alimentent les scènes comiques. La bagarre, la compétition ou la volonté de se faire remarquer ne sont pas des parenthèses étrangères à la sociabilité, elles en révèlent les règles instables. La classe apparaît aussi comme un lieu où les enfants imitent les adultes sans en maîtriser les codes. Ils prennent au sérieux les distinctions, les sanctions et les formes de prestige, mais les réinterprètent selon leurs intérêts immédiats. Cette représentation reste légère, car aucun personnage ne devient un simple exemple moral. Le livre observe plutôt la difficulté universelle de vivre avec les autres, de respecter une autorité et de conserver sa place dans un groupe. Le monde scolaire devient donc une petite scène sociale, lisible pour les enfants et reconnaissable pour les adultes. Troisièmement, un portrait précis de la vie familiale dans la France des années 1950, les épisodes domestiques donnent au recueil une dimension de chronique sociale. La famille de Nicolas est présentée à travers les repas, les sorties, les visites, les discussions entre parents et les demandes de l'enfant. Ces situations permettent à Goscinny de saisir les usages ordinaires de la France urbaine des années 1950 sans transformer le livre en document historique. Les adultes veulent assurer une éducation correcte, préserver leur tranquillité et maintenir certaines apparences. Nicolas, lui, juge ses enjeux à partir de ses désirs concrets, de ses comparaisons avec les camarades et de son besoin de participer aux décisions. Le conflit ne prend généralement pas la forme de drames profonds. Il naît plutôt des malentendus entre des discours adultes très sérieux et une compréhension enfantine qui en retient des éléments imprévus. Cette modération est importante, le livre ne présente pas la famille comme une institution oppressive ni comme un refuge parfait. Il montre un espace de négociation, de tendresse, de fatigue et de petit désordre. Les parents peuvent se montrer autoritaires, embarrassés ou contradictoires, mais ils restent vus à hauteur de Nicolas avec une vivacité qui empêche le jugement simpliste. Pour un lecteur contemporain, cette matière offre à la fois une image datée de certaines normes familiales et une expérience toujours familière, celle des écarts entre les intentions éducatives des adultes et la manière dont les enfants les reçoivent. Quatrièmement, les illustrations de Sempé comme seconde écriture comique, les dessins de Jean-Jacques Sempé, sont essentiels à la personnalité du volume. Réalisé au trait, ils ne cherchent pas une restitution réaliste et détaillée de chaque décor. Leur force vient de la composition, de la légèreté de la ligne et de la capacité à mettre en relation un petit personnage avec un espace ou un groupe plus vaste. Une cour, une rue, une salle de classe ou un rassemblement familial peuvent faire apparaître Nicolas comme un acteur minuscule au milieu de règles qui le dépassent. Cette mise à distance visuelle répond au décalage produit par le texte. Là où le narrateur traite une situation comme une affaire décisive, le dessin peut en révéler le désordre collectif, la disproportion ou la fragilité. Sempé sait aussi capter les gestes, une course, une posture de défi, une attente embarrassée ou une agitation de groupe. Ces images n'expliquent pas mécaniquement les récits. Elles ajoutent un rythme et laissent au lecteur une marge pour observer ce qui se déroule autour de Nicolas. La collaboration entre Goscinny et Sempé distingue donc le petit Nicolas de nombreux récits illustrés où le dessin remplit surtout une fonction décorative. Ici, texte et image ont des moyens différents, mais une même précision dans la construction du comique. Cette complémentarité rend la lecture accessible sans appauvrir la complexité des scènes et elle explique une part importante de la longévité visuelle de la série. En dernier lieu, une comédie sans morale explicite fondée sur les conséquences des petites initiatives. Le recueil repose sur une mécanique narrative particulièrement efficace, une idée simple surgit, Nicolas et ses camarades la poursuivent avec sérieux. Puis la réalité sociale ou matérielle résiste. Il peut s'agir de jouer, de rivaliser, de rendre service, de réussir à la maison ou de défendre une position devant les autres. Le point de départ reste volontairement modeste, ce qui permet au texte de concentrer son attention sur les enchaînements de décisions, les malentendus et les réactions. Goscinny ne conclut pas par une morale formulée. Les conséquences suffisent à faire comprendre que la bonne volonté, la fierté ou le désir de reconnaissance peuvent conduire à des résultats inattendus. Cette absence de sermon est une qualité littéraire autant que pédagogique. Le jeune lecteur peut rire de situations proches de son expérience sans avoir le sentiment que le livre le corrige. Le lecteur adulte, de son côté, reconnaît les rigidités et les contradictions qui aggravent parfois des incidents mineurs. La comédie ne dépend donc pas seulement des bêtises enfantines. Elle vient aussi de la manière dont chacun défend son point de vue avec une gravité excessive. Le livre conserve ainsi une tonalité bienveillante, mais non naïve. Il montre que les règles sont nécessaires à la vie commune tout en soulignant leur caractère parfois arbitraire ou mal compris. Cette finesse permet au récit de demeurer amusant au fil des relectures. En conclusion, Le Petit Nicolas convient particulièrement aux jeunes lecteurs qui découvrent des récits courts car chaque aventure possède une situation claire. Un rythme rapide et une voix immédiatement identifiable. Il est également très pertinent pour une lecture partagée entre générations. Les enfants peuvent suivre les jeux, les disputes et les incompréhensions de Nicolas, tandis que les adultes perçoivent plus nettement les conventions familiales, scolaires et sociales qui encadrent ces scènes. Le bénéfice principal du livre ne réside pas dans un enseignement direct, mais dans une initiation subtile à la lecture des points de vue. Le lecteur comprend progressivement que le récit de Nicolas est sincère sans être complet. Et que le comique naît de cet écart. Cette expérience développe une attention utile aux nuances du langage, aux intentions et aux conséquences des actes. Par rapport à des récits jeunesse, centrés sur une intrigue longue ou sur une morale annoncée, le volume se distingue par son art de la miniature comique. Goscinny transforme des incidents ordinaires en scènes structurées avec précision, tandis que Sempé leur donne une ampleur visuelle et une douceur singulière. Le cadre de la France des années 1950 apporte une couleur historique réelle, mais ne limite pas la portée des situations. L'amitié, le besoin de reconnaissance, les règles collectives et les malentendus entre âges restent immédiatement intelligibles. Cette alliance entre simplicité apparente, observation sociale et complémentarité du texte avec le dessin fait du livre un classique durable de la littérature jeunesse francophone. Si vous souhaitez soutenir René Goscinny, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.